Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
S'interroger sur le bonheur ne risque-t-il pas d'être le meilleur moyen de passer à côté et donc de ne pas le vivre? Avons-nous donc besoin de le nommer pour être heureux?
Merci, ma chère Hélène. Et ta question, finalement, fait référence aussi à une de mes chroniques du début d'année 2019, que je démarrais avec une question un peu provocante qui était « Sommes-nous plus heureux lorsque nous possédons une plus grande intelligence ou vaut-il mieux finalement être un imbécile heureux ?» Donc la question, peut-être je vais la poser autrement, est-ce qu'on est plus heureux si on ne cherche pas à être heureux ou est-ce qu'on est plus heureux justement si on s'interroge sur le bonheur ? Moi, je pense qu'en fait on n'a pas le choix comme pour l'intelligence, je dirais que voilà, c'est une... Si, la quête du bonheur, c'est un peu comme la quête de l'intelligence, c'est-à-dire que si on commence à chercher, on va trouver des pistes, on va imaginer des chemins qu'on n'a pas encore pris, on va peut-être regarder sa situation actuelle autrement. On peut, moi, je pense que se poser des questions est plutôt une bonne chose, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix et qu'il y a des gens qui sont heureux sans se poser de questions, qui ne s'interrogent pas sur le bonheur, et d'autres personnes qui sont heureux parce qu'ils prennent le temps justement de s'y arrêter et de se poser des questions. C'est peut-être les situations de vie en fait qui font que lorsque tout va bien, on ne se pose pas de questions et on peut vivre un bonheur sans s'interroger. Et puis si on vit une période un peu troublée de sa vie, alors on va se demander finalement est-ce que je suis heureux, est-ce que j'étais heureux, est-ce que je peux de nouveau redevenir heureux. Donc je pense qu'il est plutôt bon de s'interroger sur le bonheur. Par contre, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Il faut que ça fasse partie d'une partie de nos réflexions, que peut-être on mène cette réflexion une fois par jour ou de temps en temps, mais pas que ça devienne une obsession continuelle, parce que finalement, on peut ne même pas le vivre, on peut passer à côté, comme tu le dis, à force de simplement se focaliser dessus, et ne plus prendre le temps d'apprécier, ne plus prendre le temps de savourer, ne plus prendre le temps d'observer, de contempler ce qu'il y a autour de nous. Donc on a besoin aussi de temps de réflexion et puis de temps simplement de vide, de regard, de calme. Et donc pour nommer, est-ce qu'on a besoin de nommer son bonheur pour être heureux ? Je pense qu'on peut lui donner chacun des petits noms différents. Pourquoi pas le nommer, oui. Moi, je pense qu'il est important de mettre des mots sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, sur toutes ces humeurs ou ces sentiments ou ces émotions que nous vivons. Le fait de les nommer va permettre, lorsqu'on vit des moments difficiles, bien de chercher à les comprendre, de pouvoir mettre des mots dessus. On sait combien, par exemple, le fait de les nommer, d'aller au-delà de les nommer, de les écrire, par exemple, va nous permettre voilà, de mieux comprendre notre situation, de mieux comprendre nos émotions. L'intelligence émotionnelle nous dit qu'il est préférable, en effet, de mener une réflexion sur ce que nous ressentons. Et il est préférable d'essayer de les comprendre, de mettre des mots, de mettre des explications, des besoins, des manques derrière nos émotions. C'est le meilleur moyen de pouvoir les réguler, non pas de les supprimer, non pas de les fuir ou d'être dans le déni, mais d'être dans la compréhension et de vivre avec une émotion, de vivre une façon simple de l'apprécier, qu'elle soit positive, c'est-à-dire plutôt agréable à vivre, plutôt confortable. Et qu'est-ce que c'est agréable, je veux dire, quand on se dit, on se regarde plusieurs et se dit, oh là, on est bien là. C'est agréable ce moment. Et on prend conscience d'un moment agréable. Et comme c'est aussi important aussi de se dire à certains moments, voilà, ben je sens un malaise, je sens quelque chose qui ne convient pas, qui ne me convient pas. Quel est mon besoin là qui n'est pas nourri, qui n'est pas satisfait? Quelle est ma valeur là qui n'est pas respectée? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas en phase avec ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je peux à un moment donné m'empêcher d'exprimer mes croyances qui me sont bien utiles au quotidien, de pouvoir livrer mes pensées sans frein? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'exprimer à un moment donné, que ce soit par les mots, que ce soit par d'autres formes d'expression? Ou qu'est-ce qui peut m'empêcher de me mouvoir, de vraiment me sentir libre? Et donc, voilà, essayer de comprendre voilà ce qui limite notre sécurité, ce qui nous menace, le moment où on ne se sent pas reconnu, sont des moments importants. Et voilà pourquoi c'est bon de s'interroger sur le bonheur.
Peut-on nous priver de bonheur ?
Merci Myriam pour ta question qui fait écho à celle d'Hélène. La raison pour laquelle j'ai choisi ces deux questions cette semaine. Est-ce qu'on peut nous priver de bonheur ? Oui, alors bien sûr, si on met notre bonheur dans quelque chose qu'on peut nous priver. Alors de quoi peut-on nous priver ? Et finalement, d'où viendrait ce bonheur ? Quelles sont nos différentes sources de bonheur ? Donc moi, je m'appuie toujours un peu sur nos quatre dimensions. Et on peut avoir un bonheur physique, presque physiologique, c'est-à-dire le bonheur de la satisfaction de nos cinq sens. Donc on peut nous priver de plaisir, oui, bien sûr, parce que si on aime manger et qu'on nous prive de nourriture, si on aime apprécier de bonnes boissons et que finalement on n'y a pas accès facilement, si on aime dormir et qu'on nous empêche de dormir, et puis bien sûr toutes les autres raisons, on va dire physiologiques, si on nous empêche, bien sûr, on peut nous priver de ce qui fait, de ce qui nous amène à vivre correctement. Mais là, on est plutôt sur un besoin de survie. Donc oui, on peut nous empêcher, on peut nous priver de ce qui nous permet de survivre. Mais si on nous permet, voilà, de manger, de boire, de respirer et d'évacuer nos déchets corporels, si on nous permet d'avoir des relations sexuelles, et si on nous permet de respirer correctement, de dormir, bon, évidemment, on va quand même vivre. Mais est-ce que c'est ça le bonheur ? Est-ce que le bonheur, c'est de vivre ? Est-ce que le bonheur, c'est de survivre ? Donc, si on prend une autre dimension, qui est la dimension émotionnelle, eh bien, est-ce qu'on peut nous priver de ce bonheur émotionnel, c'est-à-dire de celui qui fait de bonnes relations ? Oui, bien sûr. Si on ne peut pas contacter ses proches, si on ne peut pas leur donner ou en recevoir de leur part de l'affection. Et en effet, ça fait un an qu'on vit des périodes assez troubles pendant lesquelles il est très difficile de se regrouper, de nourrir ce besoin d'appartenance, de se retrouver en groupe. Et donc, on peut nous priver de ce bonheur-là, mais peut-être qu'on va trouver d'autres solutions pour pouvoir quand même entrer en relation, pour pouvoir quand même prendre des nouvelles et donner l'affection et l'amour dont nous avons besoin envers et de par nos proches. Si on pense ensuite à des sources de bonheur qui peuvent être plus intellectuelles, oui, on peut nous priver de nourrir notre bonheur qui serait lié à l'écoute de nos musiques préférées, à nos lectures, à nos rêves. On ne peut pas nous empêcher de rêver déjà, donc c'était déjà une bonne chose, mais on peut nous empêcher de réaliser nos projets, ce qui nous satisfait en général du point de vue intellectuel. Oui, là, on peut nous priver aussi, mais on voit bien que ce sont encore des sources de bonheur finalement extérieures. Et est-ce qu'on peut nous priver d'une autre source de bonheur qui serait plus spirituelle, celle-ci ? Donc, on ne peut pas nous priver de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, de pouvoir pratiquer c'est pas des techniques qui n'ont pas besoin forcément d'être au contact des autres, d'une méthodologie particulière. On ne peut pas nous empêcher ou nous priver de moments de méditation ou de prière pour d'autres, ou de contemplation. Et puis on peut pratiquer le yoga ou la poésie ou des joies très simples sans forcément y mettre énormément de moyens. Donc on ne peut pas nous priver de tout cela. Et si on regarde bien, on revient à ces notions de base du bonheur. C'est qu'il y a une partie du bonheur qui nous vient de la satisfaction de nos cinq sens. Donc cela, on peut partiellement nous en priver. Mais la plus grande partie du bonheur nous vient d'un travail intérieur, d'une réflexion sur nous-mêmes, d'un positionnement par rapport à notre situation, une façon personnelle d'interpréter les événements que nous vivons. Et ça, on ne peut pas nous priver de cela. Dans les récits des personnes qui ont vécu des catastrophes, il y avait toujours ce moment de dire « heureusement que j'avais un monde intérieur très riche, heureusement que j'ai trouvé en moi la force de finalement faire face et de trouver y compris des moments très agréables dans cette situation catastrophique. » Donc je crois en effet que si on se concentre sur des sources de bonheur qui nous viennent à la fois du cœur et qui nous viennent à la fois aussi de ce que je présente souvent comme une petite étoile, c'est-à-dire une dimension spirituelle, donc on ne peut pas nous priver, on ne pourra jamais nous priver de ces bonheurs très intenses qui nous viennent de nos émotions agréables, de nos relations avec nos proches et de notre relation avec quelque chose qui nous aide à nous dépasser et à passer au-delà des circonstances de la vie quotidienne. Cette semaine, le conte nous vient de l'Inde. Il a été écrit par Satya Sai Baba et s'intitule « Ce que vous offrez vous sera rendu ». Un jour, Bouddha était sur le point d'atteindre un village où vivaient bon nombre de ses fidèles. Tout le monde dans ce village lui témoignait une grande affection, mais avant qu'il n'arrive à l'entrée du village, il croisa des jeunes voyous qui se mirent à le critiquer. Quelque peu surpris de cette réception, il s'arrêta, s'assit sur un rocher et leur dit « Eh bien, messieurs, quel plaisir obtenez-vous en me critiquant ainsi ?» Sans donner aucune raison, ils redoublèrent leurs critiques. Bouddha leur dit « Poursuivez donc aussi longtemps qu'il vous plaira. » Ils critiquèrent et critiquèrent de plus belle, jusqu'au moment où, fatigués de leurs propres invectives, ils décidèrent finalement de s'en aller. Avant qu'ils ne s'en aillent, Bouddha leur dit « Enfants, voici une vérité que je souhaite que vous sachiez. Dans le village où je me rends, les gens m'aiment beaucoup. S'ils apprenaient que vous m'avez critiqué de manière aussi vile, ils vous tailleraient en pièces. Pour vous sauver de ce danger, je suis resté assis ici sur ce rocher et je vous ai permis de me critiquer. Je vous ai donc fait un grand cadeau. D'ordinaire, quand on veut donner de la joie aux gens, on doit dépenser beaucoup d'argent et faire toutes sortes de préparatifs. Cependant, sans aucun effort, sans dépenser le moindre centime, je vous ai permis de vous réjouir en me critiquant. Puisque vous semblez retirer tant de joie des critiques que vous m'adressez, je suis responsable de votre joie. Sans en avoir vu l'intention, j'ai pu donner satisfaction à beaucoup de gens. Vous voyez, au lieu d'être malheureux à cause de vos critiques, je suis vraiment heureux parce que j'ai pu vous donner du bonheur. » Puis, Bouddha leur expliquait une chose très importante. Il le fit d'une manière telle que cela laissa une impression indélébile en leur cœur. Supposons qu'un mendiant frappe à votre porte pour demander l'aumône et que vous lui apportez de la nourriture. Supposons aussi que cette nourriture n'est pas le genre d'aumône qu'il attend et admettons qu'il ne l'accepte pas. Que ferez-vous? Vous direz « Si tu ne veux pas de ce que je te donne, je le reprends et je le garde pour moi. » De même, vous m'offrez vos critiques. C'est l'aumône que vous me faites. Vous pensez sûrement que j'ai besoin de votre avis et me l'offrez gratuitement. mais je ne l'accepte pas. Alors, à qui va-t-il ? Eh bien, il vous est retourné, il vous reste et vous appartient. Vous voyez ? Vous vous êtes réellement critiqué vous-même. Vous ne m'avez pas critiqué du tout. On peut envoyer une lettre recommandée à un ami. S'il n'accepte pas cet envoi recommandé, que fera l'administration de la poste avec la lettre ? Elle la renverra à l'expéditeur. Si vous critiquez ou dénigrez quelqu'un, et si cette personne n'accepte pas vos critiques, elles vous reviennent inévitablement. C'est une satisfaction bien mesquine de penser que vous causez des ennuis aux autres par haine et jalousie. Vous ne causez des ennuis à personne, sinon à vous-même. La jalousie créera des difficultés à celui qui en est infecté. Et elle le fera de maintes façons. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Cada mañana estoy quebrado y pues noches me despierto. Lágrimas en mi cara abajo de la lluvia. Lonely with my pride, holding in my pain.